Chapitre 50. Le 23 août 2016, 9h. Clotilde s'était endormie. Au fond de l'Arion, profondément. Au petit matin, une fois que les fêtards de la plage de l'Oche Lucia s'étaient assoupis, que les lumières du tropicaliste s'étaient éteintes, que Maria Chiara avait enfilé un peignoir, que les derniers échos de la musique techno s'étaient dispersés, noyés, lavés par le va-et-vient rassurant des vagues. L'Arion ondulait doucement. Clotilde s'était pelotonnée contre une vieille couverture sale qui traînait dans un coin de la coque et sentait un mélange d'iode et de mazout. Après de longues heures de semi-veille, à regarder les étoiles, à se faire mitrailler par les lasers verts et violets des stroboscopes rivés à la paillote, à se demander si sa mère était retournée vivre sur un astéroïde et si parfois elle redescendait, à rêver aux hommes comètes qui la quittaient, à explorer les trous noirs de ses souvenirs, ceux dissimulés derrière le Big Bang du précipice de la Petra Coda. Après ce long demi-sommeil, Clotilde s'était effondrée. Le carillon de son téléphone la réveilla. Natale. Ce salaud qu'il avait laissé en plan pour rejoindre sa femme, la queue entre les jambes. L'aileron, plutôt. Qui avait laissé ses rêves en plan, au fond de l'Arion. Elle avait dormi dedans. Il sentait le mazout et la fiente de Goéland. Ce salaud qui avait laissé sa vie en plan pour le fantôme d'une architecte. Elle était pourtant prête à mettre son nez dans les dossiers abandonnés, à y mettre sa bouche, sa langue, tout ce qu'elle avait dans le cœur, dans le ventre et entre les cuisses, à se faire avocate de son destin avorté. Mais elle était arrivée trop tard, beaucoup trop tard, près de 3 décennies trop tard. Au moins, Natale avait l'élégance de lui téléphoner pour s'excuser.
Clotilde, c'est Natale. Mon beau-père veut te voir.
Drôle de façon de s'excuser. Le sergent Garcia ? Où ça, dans son jacuzzi ? Clotilde émergeait. Autour d'elle, l'eau clapotait. Elle se sentait légère, libre. Pour un peu, elle aurait décroché la mare de l'Arion.
Non, chez moi, à la Punta Rossa.
À minima, Clotilde avait envie de plaisanter. Tu lui as annoncé que tu répudiais sa fille et que tu me demandais en mariage ?
Clo, je suis sérieux. Il y a eu un meurtre ce matin. Au camping, aux The Proct.
La main de Clotilde se crispa sur la couverture crasseuse. Immédiatement, sans qu'elle sache pourquoi, elle pensa à Valentine.
Cherbone et Spinello,
continua Natale.
Cherbone a été assassiné.
Elle pressa le tissu puant contre son visage. Cherbone et Spinello lui avaient menti à propos de son frère Nicolas. Cherbone était vraisemblablement celui qui avait saboté la direction de la voiture de ses parents. Assassiné, il emportait avec lui son secret. Elle bloqua dans sa gorge un haut-le-cœur acide. Ses doigts, ses bras, son corps sentaient l'essence, le sel et la merde. Chaque roulis de l'Arion amplifiait son envie de vomir.
Une flèche de harpon dans le cœur,
précisa Natale.
Spinello est mort sur le coup. Mon beau-père Cesareu veut te parler en tête à tête. Il a des choses à te révéler, des choses importantes sur ta famille. Il préfère te les apprendre avant que tu sois convoqué à la gendarmerie.
Je dormais dans ton bateau pendant le meurtre, seule. Je vois pas en quoi je peux aider les flics à trouver l'assassin.
Ce n'est pas ça, Clotilde. Les flics n'ont pas besoin de ton aide.
Comment ça ?
Ils ont déjà coincé le meurtrier.
Clotilde jeta au loin la couverture. Elle se leva en titubant dans l'Arion, fixant la mer, telle une naufragée perdue sur un radeau à des milliers de kilomètres de la première terre où s'échouit. Qui a tué Spinello ?
L'homme à tout faire du camping. Tu dois le connaître, t'as dû le croiser, t'as forcément dû le remarquer. C'est un géant barbu, il a un bras, une jambe et la moitié du visage mort. C'est Orsu Romani, le meurtrier. Les gendarmes l'ont déjà embarqué.
Aurélia tenait la main de Natale, debout devant leur maison, entourée par la mer, perchée sur la Punta Rossa. Cesareu Garcia se tenait 2 pas sur la gauche. En garant la passade quelques mètres plus loin, Clotilde se fit la réflexion que la scène ressemblait à une carte postale, à un décor de magazine, un tableau composé pour un cliché sur papier glacé. La maison de rêve, le beau mec blond devant, l'écrin d'azur, l'authenticité des vieilles pierres combinées à la modernité du bois et du verre. Même Aurélia ne déparait pas. Si elle était restée une femme sans charme, sa silhouette élancée pouvait laisser croire qu'elle avait été belle jadis. Un visage lumineux, de fins sourcils dessinés, une taille étroite, de longues jambes, une allure qu'on devinait entretenue au prix de sacrifices aussi physiques que financiers. À évaluer sa robe stricte et chic, ses bas comme une seconde peau bronzée, ses talons hauts qu'elle portait avec une élégance un peu arrogante. Difficile, pour qui n'avait pas connu Aurélia à 15 ans, de deviner, sous la menace de sa vieillesse qui pointait, la disgrâce de sa jeunesse. Clotilde avait conscience que le contraste avec elle devait être saisissant. Elle était directement venue de la plage de l'Ochelucia après une nuit passée dans la cale de l'Arion. Ni douchée, ni maquillée, ni parfumée, portant encore sur elle le goût des baisers de Natale, contre elle les marques de ses caresses, en elle la chaleur de son sperme. Aurélia la fouilla du regard, de haut en bas. Une femme pouvait-elle flairer cela chez une rivale? L'odeur de l'amour clandestin? Peu importait. Même si Clotilde ne se présentait pas à son avantage, elle appréciait ce rôle de panthère, de chatte de gouttière pénétrant par effraction dans le territoire de sa rivale Angora pour y foutre le bordel. Ils ne la saluèrent pas. Cesare ou Garcia ne leur en laissa pas le temps. Il passa devant sa fille et son gendre, écrasant de sa masse le paysage de carte postale. « Viens, Clotilde, viens. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Donne-moi les clés, Aurélia. » Il attrapa le trousseau des mains de sa fille et entraîna Clotilde dans une remise à quelques mètres de la maison. Le bâtiment ressemblait à un garage sombre, sans fenêtres ni décoration. Quatre murs de pierre et une ampoule nue pendue au plafond. Une chaise, une table. Et entassées sur des étagères de fer scellées au mur, des dizaines de boîtes cartonnées qui semblaient mieux classées dans la pièce close que des vins anciens dans la cave d'un sommelier. « Pratique, ces cabanes !» précisa le gendarme en retraite en refermant la porte derrière eux. « On en trouve un peu partout sur le littoral. Elles servaient de refuge aux bergers lors des transhumances vers la mer. Mur épais de 50 cm, toit plat de terre battue, pas besoin de clim à l'intérieur, et on s'y sent plus en sûreté que dans un blocos. » Je range là toutes mes archives, mon matériel, mes souvenirs, tout ce que je n'ai pas pu laisser à la gendarmerie quand je suis partie. De temps en temps, je reviens travailler. J'ai plus de place ici que chez moi, et je suis au frais. Dans ma putain de maison, le soleil entre de partout. Son regard balaya les murs aveugles, uniquement éclairés de la lumière artificielle. Ouais, je sais ce que tu penses, que c'est con de venir à la Punta Rossa, avec la mer à perte de vue et de s'enfermer dans un caveau. Alors je vais te dire, Clotilde, et prends-le comme une confidence. À force de l'avoir en face de moi, la mer me fait chier. Tu vois, un peu comme une femme, même très belle, qu'on a tous les matins en face de soi. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, répéta Clotilde dans sa tête. Le gendarme en retraite semblait pourtant parti pour parler de tout sauf de l'affaire. Elle décida d'aller droit au but. Orsou est innocent, balança-t-elle soudainement. Je ne sais pas qui a tué Cherbonne et Spinello, mais c'est pas Orsou. Cesareu se contenta de sourire. Qu'est-ce que tu en sais? T'étais même pas là. C'était vrai. Qu'est-ce qu'elle en savait? Appelez ça comme vous voulez. Une intuition, une conviction. Le visage d'Orsou repassa devant ses yeux. Son physique, son handicap. Il était la victime idéale, la proie toute désignée pour les bourreaux. Cesareu Garcia avança un dossier vers Clotilde. Il y avait ses empreintes sur l'arme du crime. Un pistolet harpon. Celui avec lequel Cherbonne et Spinello a été tué. Les réflexes d'avocate de Clotilde reprenaient le dessus. Même si depuis des années, ses compétences se limitaient à accompagner des divorces sans intérêt. Elle avait plutôt bonne réputation, auprès des hommes surtout, et se bornait presque toujours à instruire des séparations à l'amiable. Logique. Aucun homme souhaitant négocier pied à pied une pension alimentaire où la garde de ses enfants n'aurait osé prendre une femme pour le défendre. « Des empreintes d'Orsou, » plaida-t-elle. « On a dû en retrouver partout dans le camping des Eprocts. C'est lui qui range tout, le matériel de plongée comme le reste. » « Il était l'une des seules personnes levées à l'heure du crime, » insista Cesareu Garcia. « Il s'est fait engueuler par Cherbonne et Spinello quelques minutes avant le meurtre. « Humilié » serait le mot le plus exact d'ailleurs. Si tous les salariés humiliés par leur patron leur plantaient dans le cœur le premier objet tranchant qui leur passe sous la main, mes confrères des prud'hommes seraient au chômage. Le sergent Garcia sourit encore, avant d'ouvrir le dossier devant lui. La pièce était fraîche, mais la sueur trempait la chemise blanche qui boudinait le gendarme.
Il y a autre chose, Clotilde. Les flics ont perquisitionné chez Orso. Ils ont retrouvé des boules de pétanque.
Waouh, des boules de pétanque! C'est interdit aux manchots d'en posséder? C'est un crime en Corse? Pas de poignet, pas de cochonnet?
Des boules rares, Clotilde. Des Prestige Carbone 125. Il n'a pas été difficile de les identifier. Un seul résident du camping en possédait.
Un silence.
Jakob Schreiber, le vieil Allemand disparu depuis 3 jours. Et sur les boules de pétanque,
le gendarme essuya avec un coin de sa chemise les gouttes qui coulaient sous ses tempes, dévoilant sans pudeur un ventre gras quasi posé sur la table.
Les enquêteurs ont identifié des traces de sang. Beaucoup de sang. Du sang et des cheveux gris. Sans aucun doute ceux du vieil Allemand.
Je n'y crois pas.
Orsou n'est pas un ange, Clotilde. Il n'est pas un pauvre petit handicapé martyrisé. Il a fait des conneries. Il a souvent été condamné pour violence, pour des coups qu'il a distribués. Même si je le reconnais, il n'est pas impossible qu'on lui ait demandé de les donner. Orsou est un garçon facile à manipuler. Une mère qui se suicide avant qu'il ait le temps de se souvenir d'elle. Un père qu'il n'a jamais connu. Sa grand-mère, Speranza, qui a fait ce qu'elle a pu pour l'élever.
L'image floue d'Orsou bébé, dans sa poussette, sous le chêne vert de la bergerie d'Arcanou, lui revenait. Un bébé calme, silencieux. Clotilde avait 15 ans alors, et n'avait pas davantage prêté attention à ce nouveau-né que s'il s'était agi d'une poupée dans un landau. La question brûlait la gorge de Clotilde, la rongeait comme de l'acide.
Est-ce qu'on sait qui est le père d'Orsou ?
Une question dont elle connaissait déjà la réponse.
C'est un secret de polichinelle, répondit le flic. Un secret de polichinelle dans le tiroir.
Il se força à rire. À chaque mouvement de son cou ou d'un de ses bras, la flaque de tissu humide sous ses aisselles se collait et se décollait de sa peau. Il laissa le temps aux fibres transparentes de se plaquer à nouveau contre son épiderme moite et poilu avant de continuer.
Un tiroir que pas grand monde n'a envie d'ouvrir. C'est pour cette raison que je souhaitais que tu viennes ici. Depuis ses incarcérations pour coups et blessures, Orsou possède un dossier dans le fichier national des empreintes génétiques. Il n'a pas été difficile pour moi de vérifier la rumeur qui circulait depuis sa naissance.
Qu'on en finisse. Ce vieux flic allait-il enfin lâcher sa bombe ?